Chant sixième. La sorcière. À l'aube claire se marie le chant clair des becs fins. La terre énamourée attend le soleil, vêtue de fraîcheur et d'aurore. Ainsi la jeune fille qui se fait enlever, vêtue de la plus belle de ses robes, attend le jouvenceau qui lui a dit « Partons en hâte ». Dans l'accro marchaient trois hommes, trois porchers, retournant du marché de Saint-Chamas-le-Riche. Ils venaient de vendre leur troupeau et, tout en faisant la causerie, sur l'épaule, à l'accoutumée, ils portaient leur argent enveloppé dans leur manteau. Quand, tout à coup, « Silence, camarade !» fait l'un des trois. Depuis un instant, il me semble ouïr soupirer dans les bruyères. « Bah ! » dirent les autres, « c'est la cloche de Saint-Martin ou de Maussanne ?» Ou bien peut-être la tramontane qui agite en passant les touffes de chênes de nains. À peine achevait-il, des genêts sort une plainte qui les arrête, une plainte si dolente qu'elle navrait le cœur. « Jésus-Maria » dirent-ils tous, « il y a de l'étrange !» Et ils firent un signe de croix, et doucement, doucement, s'acheminèrent là d'où les plaintes venaient de plus en plus fortes. Oh, quel spectacle! Dans les herbes, sur les cailloux, le visage renversé par terre, Vincent était gisant. Le sol foulé autour de lui, les brins d'osier dispersés çà et là, sa chemise en lambeaux et l'herbe ensanglantée et sa poitrine fendue. Abandonné dans les champs, avec les étoiles pour compagne, là, le pauvre jeune homme avait passé la nuit. Et l'aube humide et lumineuse, en frappant sur ses paupières, dans ses veines mourantes, ressuscita la vie et lui ouvrit les yeux. Et les trois hommes, empressés, quittèrent aussitôt le chemin et, courbés tous les trois, lui firent un berceau de leur manteau qu'ils déployèrent, puis, entre eux tous, le prirent dans leurs bras et l'apportèrent au mas des Micocoules, qui était la plus proche habitation. Ô doux amis de ma jeunesse, vaillants poètes de Provence, qui écoutez attentifs mes chansons du temps passé, toi qui sais, ô Roumanie, tresser dans tes harmonies, et les pleurs du peuple, et le rire des jeunes filles, et les fleurs du printemps. Toi qui, des bois et des rivières, cherches le sombre et le frais, pour ton cœur consumé de rêves d'amour, fier au Banel, et par les œuvres que tu laisses, toi, Crousillat, qui, à la Touloubre, fait plus de renommée qu'elle n'en recouvre de son Nostradamus le sombre astrologue. Et toi aussi, Mathieu Anselme, qui, sous le berceau des treilles, regarde pensif les jeunes filles attrayantes. Et toi, cher Paul, ô fin railleur, et toi, le pauvre paysan, t'avant, qui mêle ton humble chanson à celle des grillons bruns qui examinent ton hoyau. Et toi aussi, qui, dans des débordements de la Durance, trempes encore tes pensées, toi qui chauffes le français à nos soleils, ô mon noble Dumas, grandis, lorsqu'ensuite Mireille s'est lancée, loin de son mas, neuve et étonnée, toi qui l'as, dans Paris, menée par la main. Et toi, enfin, dans un vent de feu, agite, emporte et fouette l'âme, garcin, ô fils ardent du maréchal d'Alens, vers le fruit beau et mûr, ô vous tous, à mesure que je gravis ma hauteur, aérez mon chemin de votre sainte haleine. Maître Ramon, bonjour, dirent les porchers en arrivant. Nous avons trouvé ce pauvre jeune homme par là-bas dans la lande. Cherchez des loques de toile fine, car il porte à la poitrine une bien large blessure. Alors, sur la table de pierre, il dépose Vincent. Au bruit du fatal événement, Mireille accourt éperdue. Elle venait du jardin et tenait sur la hanche son panier plein de légumes. Accourent tous les laboureurs. De Mireille les bras se lèvent. « Mère de Dieu !» puis s'écrie-t-elle d'une voix aiguë. Et son panier tombe. Vincent, que t'a-t-on fait, hélas, pour être ainsi couvert de sang? De son bien-aimé, elle relève alors doucement la tête et longuement le regarde, muette, consternée, comme pétrifiée par la douleur. De larmes grosses et rapides s'inondaient en même temps la légère éminence de son sein. De l'amoureuse jeune fille, Vincent reconnut la main, et d'une voix mourante, « Oh, dit-il, ayez pitié, j'ai besoin qu'il m'accompagne le bon Dieu, car je suis bien à plaindre. » « Laisse humecter ta bouche, dit maître Ramon, avec un peu d'agriola. « Oui, bois-le vite, car cela ranime, reprit la jouvencelle. Et, prompte, elle prit le flacon, et, goutte à goutte, en lui parlant, elle le faisait boire et lui ôtait le mal-être. « De pareils malheurs, Dieu vous délivre, Vincent commença de nouveau, et vous paie tous vos soins. En refendant un sillon d'osier, je le pressai sur ma poitrine quand le fer m'échappe et me frappe au sein. Il ne voulut pas dire que pour elle il s'était battu comme une grêle, mais sa parole, d'elle-même, revenait vers l'amour, comme la mouche au miel. « La douleur, dit-il, de votre visage, plus que ma plaie m'est amère. La jolie corbeille commencée par nous, il faut donc, paraît-il, qu'elle reste inachevée et que la tresse s'en arrache. Pour ma part, Mireille, je sais que de votre amour j'aurais voulu la voir s'emplir. Mais que tenez-vous là, que je voie vos yeux doux et que j'y boive, la vie encore un peu, je ne vous demande rien de plus. Je vous demande si vous pouviez faire quelque chose pour le vanier. J'ai là-bas mon vieux père qui est brisé par l'âge et mort pour le travail. » Mireille se désolait. Cependant, elle lave sa blessure et l'un de la charpie déchire le velours. D'autres empressés s'élancent vers l'alpine pour chercher les herbes salutaires. Mais aussitôt Jeanne-Marie, « Au trou des fées, au trou des fées, portez-le ! Plus la plaie est dangereuse, plus la sorcière est puissante. » Aussitôt, au trou des fées, dans le vallon d'enfer, quatre le portent. Dans les remparts de roches qui forment la chaîne des baux, en un lieu que la salamandre hante et que de leur vol tournoyant les sacres indiquent, entre les touffes des romarins à fleurs de roche, un trou se cache. Dans ses profondeurs, depuis que le saint Angélus, en l'honneur de la Vierge, frappe le bronze clair des basiliques, dans ses profondeurs les antiques fées, pour jamais, du soleil ont fui la splendeur. Esprit léger, mystérieux, entre la forme et la matière, elles erraient au milieu d'un limpide crépuscule. Dieu les avait créées demi-terrestres et féminines, afin qu'elles fussent, pour ainsi dire, l'âme visible des campagnes et afin d'apprivoiser la sauvagerie des premiers hommes. Mais si beaux étaient les fils des hommes que pour eux s'enflammèrent les fées, et, insensés, au lieu d'élever les mortels vers les célestes espaces, passionnés de nos passions, dans notre obscur destin, comme des oiseaux fascinés, de leur hauteur elles tombèrent. Dans la gorge étroite et raboteuse de la caverne sombre, les porteurs cependant avaient laissé Vincent se couler par glissade. Avec lui, dans l'obscur sentier, ne s'aventura que Mireille, recommandant son âme en Dieu chemin faisant. Au fond du puits qui les amène, dans une grotte vaste et froide, ils se trouvèrent. Et, seule, au milieu, et voilée d'un nuage de rêve, Tavaine, la sorcière, accroupie, tenait un épi de brome, et profondément triste en le considérant. Pauvre brin d'herbe officieux, les gens te nomment blé du diable, grommelait-elle, et tu es un des signes de Dieu. Alors Mireille la salue, et, à peine commence-t-elle à dire, émue, le motif pour lequel ils viennent, la sorcière sans lever la tête. Je le savais. Ensuite, sa voix chevrotante de nouveau s'adressa au brome. Pauvre fleur de gazon, ce sont tes feuilles et tes germes que les troupeaux toute l'année broutent. Et, pauvrette, plus ils te foulent, plus tes épis se multiplient, et tu revais de vers le nord comme le midi. » Là, Taven fit une pause. Dans une coquille d'escargot, une petite lumière brûlait, éclairant de reflets rougeâtres la paroi humide de la roche. Sur la fourchette d'un bâton était juchée une corneille et, côte à côte, une poule blanche. Un crible pendait au mur. « Qui que vous soyez, dit la sorcière, subitement et comme ivre. Et que m'importe, la foi marche les yeux fermés, la charité porte un bandeau, et elle ne s'écarte pas de l'arrêt. Vanier de Valabrègue, te sens-tu foi ? Oui, bien. Suis mon sillon. » Empressée comme une louve qui, de sa queue se bat les flancs, par un trou disparaît la sorcière. Stupéfait, le Valabrégant et Mireille vont après elle. Devant la vieille, on entendait, dans l'horrible brume, voleter la corneille et la poule glousser. « Descendez vite, il est déjà l'heure de se ceindre de mandragore !» Et vite, en rampant, en se traînant, couples ne s'écartant point l'un de l'autre, ils vont à la voie qui les commande. Dans une grotte plus grande encore, venait s'élargir l'infernal couloir. « Voilà !» leur dit Taven d'un signe. « Ô plante sainte de mon seigneur Nostradamus, rameau d'or, bâton de Saint-Joseph, héverge magique de Moïse » s'écrit-elle. Et de l'herbe que je vous dis, craintive, elle couronna les pouces avec son chapelet qu'elle y déposa à genoux. Puis, se levant, « c'est l'heure de nous ceindre de mandragore !» De la plante venue dans la fente du roc, elle cueille 3 jets, s'encouronne elle-même, en couronne le jeune homme, la jeune fille. « En avant, toujours !» Et elle s'engouffre, ardente plus que jamais, dans les cavités sombres. Avec de la lumière sur le dos pour éclairer l'obscurité, une troupe d'escarbots chemine devant elle. « Jeunes gens, tout chemin glorieux à sa traversée de purgatoire. Ça, courage ! Du Shabbat, nous allons maintenant, aïe aïe aïe, franchir les épouvantes !» Elle n'avait pas close encore la bouche, un vent violent leur cingle le visage et leur coupe brusquement le souffle. « Prosternons-nous, défolés, voici le triomphe !» Tel qu'un grain gonflé de grêle, sous les cryptes passent innombrables les saints vagabonds, glapissants, tourbillonnants. Ils passent, et baignés d'une sueur froide, les 3 mortels sentent leurs tempes éventées, fouettées par l'aile des fantômes, nues et froides comme un glaçon. « Allez plus loin, battre les ténèbres !» Taven cria. « Bande bourrue, allez, abatteurs de moissons, allez, et rangez-vous !» Oh, les vilains, les fanfarons, et dans le bien que nous pouvons faire, dire ensuite qu'il nous faut employer telle engeance. Car oui, de même que le médecin souvent tire le bon du pire, par la vertu des sortilèges, nous forçons, nous, le mal à engendrer le bien. Car nous sommes les sorcières, et nulle chose à notre vue n'est cachée. Et où le vulgaire voit une pierre, un fouet, une maladie, une perche, nous distinguons, nous, une force qui dans son écorce se tourmente, ainsi que, sous le marc, un vin nouveau qui bout. Perce la cuve, la boisson en jaillira toute bouillante. Découvre, si tu peux, la clé de Salomon. Parle à la pierre dans sa langue, et la montagne à ta parole dévalera dans la vallée. Et il descendait toujours dans les cavernes de la montagne. Une petite voix maligne, comme un cri de chardonneret, leur fait alors. « Oi, oi, la commère Taven, tourne le rouet, ma tante Jeanne, tourne le rouet, et puis dévide la nuit, le jour, ton fil de laine. Et elle croit filer de la laine, et ne file que du foin. » Sa grand-mère tourne le rouet. Et puis, en l'air, de rire et de rire. Ainsi est ni un poulain sevré. Quelle est cette voix qui parle, et tantôt rit et tantôt chante? Demanda Mireille en tremblant. Hoï, hoï! En répétant son rire habituel, dit la voix enfantine. Quelle est cette jolie fille? Permets, petit minois, que je soulève ton fichu. Permets que je soulève. Y a-t-il des noisettes dessous ou des grenades? Et la pauvre enfant des champs. Aïe! Allait-elle crier. Mais Tavenne aussitôt. Silence! N'aie pas peur, c'est là un lutin. C'est cet écervelé d'esprit fantastique. Dans ses bons moments, il balayera ta cuisine, triplera les œufs de tes poules, attisera le sarment et tournera ton rôti. Mais qu'il lui prenne un caprice, tu peux dire adieu. Quel brouillon! Dans ta marmite, il jette un quarteron de sel. Il empêche ton feu de s'allumer. Vas-tu te coucher? Il souffle ta lampe. Veux-tu aller aux vêpres à Saint-Trophime? Il cache ou fane ta parure des dimanches. Tiens, tiens, vieux croc, rive tes pointes! L'entendez-vous, la poulie mal graissée? Lui réplique aussitôt l'espiègle. Oui, vieille noix vide, la nuit, quand dorment les fillettes, je tire doucement leur couverture. Je les épie, nues et rebondies, et qui, folles de peur, se blottissent en priant. Je vois leurs deux coupelles qui vont et viennent, palpitantes. Je vois! Et l'esprit s'en allait au lointain avec son rire. Sous les grottes, les sorcelleries firent trêve. Et dans les ombres et le silence, on entendait dégoutter sur le sol cristallin, dégoutter la filtration des voûtes, et cela seul d'intervalle en intervalle. Et voici, par là-bas dans l'immensité noire, voici qu'une grande forme blanche, qui sur un banc de roche était assise, se leva droite, un bras sur la hanche. Vincent, comme un quartier de pierre, immobile de terreur. Et si, en ce lieu même, avait pu être un précipice, d'épouvante Mireille s'y jetait d'un seul élan. « Que veux-tu ? » s'écria Tavenne. « Long escogriffe, par tes balancements de tête, pareils à ceux d'un peuplier !»« Médrille ! » dit-elle ensuite au couple qui a la mort dans les eaux. « Vous ne connaissez pas la lavandière ? Sur le mont Ventoux, qui est son siège, lorsqu'il la voit d'en bas, pour un long nuage blanc, les gens la prennent. Mais, ô berger, vite, vite, que vos brebis rentrent au parc. La lavandière de malheur amasse autour d'elle les nuées errantes. Et, quand il en est assez pour la lessive, sur le monceau, les bras retroussés, et avec fureur, elle frappe et refrappe. À brocs, elle en exprime en les tordant, et la verse et la flamme. Et sur la mer qui monte et mugit à la garde de Notre-Dame, les pâles nautonniers recommandent leur proue, et le bouvier de vers l'étable chasse. Un épouvantable tumulte lui arrête de rechef la parole entre dents. Miaulement de chattemite, branlement de loquet, et piaulement et paroles à moitié dites, et auxquelles le diable seul entend. Din, din, poum, poum. Qui frappe ainsi sur des chaudières fantastiques? Et des déchirements, et des éclats de rire, et des épreintes comme celles de femmes abîmées dans les douleurs de leur couche, puis des bâillements, puis des huées, et des criailleries, et des gémissements aigus. Tendez la main que je vous saisisse, et prenez garde qu'elle ne s'échappe, la couronne magique qui vous ceint le front. Et dans leurs jambes alors se presse pêle-mêle, quelque chose comme un troupeau de porcs qui s'ébroue. L'un crie, l'un aboie, l'un grogne, l'un souffle, sous un linceul de neige quand la nature dort, par une nuit venteuse et claire, quand les chasseurs à la fouée secouent les ronceraies tout le long des ruisseaux. Ainsi, moineaux et chouettes, éveillés en sursaut dans leurs couches, effarouchés, partent par bandes, et, avec un bruit de souffle et de forge, s'engouffrent dans le filet. Mais alors la charmeresse, « Hue, sauterelle de mauvaise vie, Harry, malheur à vous, loin de moi !» et chassant la horde impure avec son crible, dans les ténèbres, elle jetait des cercles, des figures, des raies lumineuses et couleurs de kermesse. Clapissez-vous dans vos cavernes, artisans de mal, qui vous dérange? Aux aiguillons de feu qui piquent vos chairs, ne sentez-vous donc pas que sur l'alpine le soleil roux brille encore? Aux angles de rochers, appendez-vous, pour les chauves-souris, il fait encore trop clair. Et il déguerpissait de toutes parts, et les bruits peu à peu s'éteignaient. Il faut vous dire, au couple dit alors Tavennes, que des fantômes ce lieu et le repère, tant que sur les jachères jaunes le jour laisse tomber sa manne. Mais dès que l'ombre étend son drap de mort, vers le temps où la vieille irritée lance à février sa ruade, dans les églises désertes et fermées à triple tour de clé, n'allez pas, femmes attardées, le front pendant sur une chaise, rester endormies. Dans les ténèbres, vous pourriez voir les dalles se soulever tout alentour, et les luminaires s'allumer, et cousus dans leur sueur, les morts un à un allaient se mettre à genoux. Un prêtre, pâle comme eux, dire la messe et l'évangile, et les cloches, d'elles-mêmes en branle, pleuraient des glas avec de longs soupirs. Parlez, parlez-en aux effraies, dans les églises, pour boire l'huile des lampes, quand l'hiver elle descend des clochers, demandez-leur si je vous mens, et si le clerc qui sert l'office, qui dans le calice verse le vin, n'est pas le seul vivant à la cérémonie. Vers le temps où la vieille irritée lance à février sa ruade, pâtre, si vous ne voulez, ébouriffé de peur, restez 7 ans, les jambes roides, charmés là où vous êtes, avec vos brebis, rentrez moins tard dans vos clés. Pâtre, le trou des fées a lâché tout son vol. Et dans l'accroc, à 4 pattes, où d'une volée se rend tout ce qui a fait le pacte, et par les sentiers tortueux, les magiciens de Varigoul et les sorciers de Fanfarigoul vont venir dans l'étain boire à la tasse d'or en faisant la farandole. Voyez, comme danse dans les garrigues frémissantes du nombril, déjà la garamode attend le grippé. Fille guenipe endiablée, grippée morte à charogne, et arrache-lui les boyaux à coups de griffes. Ils disparaissent. Les voilà encore, horreur et bacchanale. Celle qui, là-bas, décampe terre à terre, dans les titimales, comme un voleur nocturne qui fuit en se baissant, c'est la bambarouche renfrognée. Entre ses longues serres et sur sa tête cornue, elle emporte des enfantelets, nus et pleurants. Par là, voyez-vous le cauchemar? Par le tuyau des cheminées, il descend furtivement sur la poitrine moite de l'endormi qui se renverse. Muet, il s'y accroupit, l'oppresse comme une tour, et enchevêtre dans son esprit des songes qui font horreur et des rêves douloureux. Entendez-vous arracher les portes de leurs gonds? Les escarinches courent la campagne le marmal, le barban. Dans la lande, ils forment une brume. Des Cévennes même, avec leur ventre de salamandre, les dracs accourent par douzaines, et en passant, patatras, ils arrachent la toiture des fermes. Quel vacarme! Ô lune, quelle malencontre te courrousse pour descendre ainsi rouge et large sur les baux! Prends garde au chien qui aboie, ô lune folle, s'il te happe, il t'engoulera comme un gâteau, car le chien qui te guette est le chien de Cambal. Mais qui branle ainsi les yeuses? Aïe, elles sont tordues comme des fougères, et des feux Saint-Elme, sautant, tourbillonnant, bondit la flamme tortue, et des piétinements et un bruit de clochettes font retentir la crosse stérile, le galop enragé du baron Castillon. Enrouée, haletante, suffoquant, s'était arrêtée la sorcière des Baux. Mais soudain, « Couvrez-vous, fit-elle, du tablier, couvrez l'oreille et les paupières, l'agneau noir nous appelle. » « Qui donc cet agnelet qui belle ?» dit Vincent. Mais elle, Sourde oreille et alerte, malheur ici à qui trébuche, plus périlleux que le pas de la sambuque et le pas du noir cornu. Ainsi que maintenant vous venez de l'entendre, il a un accent doucereux, un tendre bêlement qui vous attire à la descente. Aux chrétiens imprudents qui se retournent au bruit, il fait luire l'empire d'Hérode, l'or de Judas, et indique la place où la chèvre d'or fut par les Sarrasins enfouie. Jusqu'à leur mort, ils traient la chèvre tant qu'ils veulent. Mais à l'agonie, lorsqu'ils râlent, qu'ensuite ils fassent demander le sacrement divin. Le noir Antenois leur réplique par un orage de coups sur les côtes. Et néanmoins, au temps où nous sommes, tant mauvais, marqué par la morsure de tout vice, combien d'âmes sèches et affamées de gain, hélas, qui mordent à son piège, et qui, à la chèvre d'or, font fumer leur encens. Là, le chant de la poule, trois fois perça la brume. Dans la 13e grotte, à la fin des fins, enfant, nous voici arrivés, dit la vieille. Mireille et le vanier, sous une grande cheminée, virent 7 chats noirs se chauffant à l'âtre. Ils virent, au milieu des 7 matous, une marmite de fer à la crémaillère. Ils virent 2 dragons en forme de tison qui vomissaient à pleine gueule 2 flammes bleues au cul de la marmite. « Pour cuisiner votre bouillie, vous employez ce bois, grand-mère. »« Oui, mon fils, nulle bûchette ne brûle mieux. Ce sont des cèpes de vignes sauvages. » Mais Vincent hochant la tête. « Des cèpes, cela vous plaît à dire. Mais hâtons-nous, car ce n'est point risible. » Une grande table de porphyre au centre de la grotte épanouissait son large contour. Processionnellement et blanche, 1000 colonnes diaphanes comme les glaçons qui pendent au toit, de l'appart pour aller courir sous les racines des chênes et les fondements des mamelons, immense galerie que les fées ont ouverte. Portique majestueux, qu'enveloppe une lueur nébuleuse et vague, merveilleux pêle-mêle de temples, de palais, de péristyles, de labyrinthes, comme n'en taillèrent ainsi ni Corinthe ni Babylone, et qu'un souffle de fée dissipe quand il lui plaît. Là errent les fées, pareilles à des rayons qui tremblotent, avec les chevaliers qu'elles enchantèrent jadis, elles continuent la vie d'amour dans les allées ombreuses de cette chartreuse tranquille. Mais silence, paix au couple qui s'enveloppe d'ombre. Déjà prête, l'enchanteresse, tantôt levée sur la tête, tantôt vers le sol baissait ses bras nus. Sur la grande table de porphyre, telle que Laurent le saint martyr était couché sans dire mot, le vanier Vincent avec sa plaie au buste. Exalté, grandi par l'esprit qui la travaille et d'un vent prophétique lui enfle la gorge, Taven, dans la marmite qui déborde, à gros bouillons, plonge soudain l'écumoire. Autour d'elle, les chats formaient le cercle. Vénérable, avec la mixture, la sorcière de la main gauche échaude la poitrine découverte de Vincent. Et les yeux fixes en charme la douloureuse blessure, en murmurant à voix basse. Christ est né, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ ressuscitera. Triomphante, comme aux forêts, la grande tigresse qui allonge après la chasse un coup de griffe dans le flanc roux de sa tremblante victime, sur les viscères palpitants, ainsi la sorcière imprime alors 3 fois avec l'orteil le signe de la croix. Et de sa bouche, désordonnément, la parole débonde et heurte au portail nuageux de l'avenir. « Oui, il ressuscitera, je le crois !» De la colline, parmi les ronces et les cailloux, je le vois au lointain qui monte avec son front saignant à grosses gouttes. Et dans les ronces et dans la pierre, il monte seul, sa croix l'accable. Où est pour l'essuyer, Véronique? Où est ce brave homme de sirène pour le relever lorsqu'il s'affaisse? avec leurs chevelures détressées, les maris plaintives, où sont-elles? Personne. Et dans l'ombre et la poussière, là-bas, riches et pauvres le regardent monter et disent « Où va, avec sa poutre sur l'épaule, celui là-haut qui sans cesse gravit ?» Sang de Caïn, âme charnelle, pour le porte-croix ils n'ont de pitié, pas plus que s'ils voyaient dans la lande un chien lapidé par son maître. Ah, race de juifs qui mords avec fureur la main qui te nourrit et, courbée, lèche celle qui t'éreinte de coups. Dans la moelle de tes vertèbres, tu le veux, descendront les frissons d'horreur. Et de l'épi et de la gousse, le charbon amer va effrayer ta faim. Oh, que de lances, oh, que de sabres, sur quel monceau de cadavres vois-je bondir l'eau des ravins? Pacifie tes vagues, ô mer tempétueuse. Aïe, la barque antique de pierre, aux âpres roches où elle frappe, s'est brisée en éclats. Ô, voyez, le maître pêcheur a dominé le flot rebelle dans une barque belle et neuve. Il gagne le Rhône et rebondit parmi les vagues avec la croix de son dieu plantée au timon. Ô divin arc-en-ciel, immense, éternelle et sublime clémence, je vois une terre neuve, un soleil qui réjouit, des oliveuses en farandole devant les fruits qui pendent et sur les gerbes d'orge les moissonneurs gisants qui têtent le baril. Et dévoilé par des exemples si nombreux, Dieu est adoré dans son temple. Et la sorcière des beaux, cela dit, du doigt montre aux deux enfants un chemin à l'extrémité duquel un filet de jour pénètre, menu, menu. Ils partent en hâte, la joue effarée et courbant la nuque. Par souterrain, au trou de corde, le beau couple aborde enfin. Ils remontent au soleil. Recouvrant le rocher de ses ruines et de sa vieillesse, Montmajour, l'abbaye des moines, leur apparaît comme en un songe. Ils s'embrassent et gagnent la jonchée.